France Inter. France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Prenons un village rural en France. Une petite commune à la campagne avec ses joies et ses peines, ses atouts et ses problèmes. Le manque de commerce en centre-bourg, par exemple, le vieillissement de la population ou les inquiétudes liées au changement climatique, la sécheresse, la gestion de l'eau. Imaginez à présent que vous regardez ce village avec des lunettes d'architecte, ou des lunettes d'urbaniste, ou de sociologue, ou de journaliste, ou de designer, ou de paysagiste. Votre approche, évidemment, ne sera pas la même en fonction de la monture que vous choisissez. La diversité des regards est précieuse pour trouver des solutions aux enjeux de la ruralité. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale Palpite dans les carnets de campagne. Palpite, c'est le palmarès étudiant pour inspirer les territoires. Une remise des prix lancée par le ministère des Collectivités Territoriales et de la Ruralité. Son ambition est de valoriser, de mettre en lumière les étudiants et les étudiantes qui se sont intéressés aux territoires ruraux avec leurs travaux de fin d'études. Et ce, dans toutes les disciplines, donc. Récompenser ces travaux d'étudiants, c'est une façon de donner un écho national à des pistes de réflexion qui trop souvent restent dans leur coin malgré leur grande qualité. Des idées qui pourraient inspirer les élus partout en France et qui proposent une réflexion féconde, des approches nouvelles. Figurez-vous que je suis la marraine de cette première promotion et c'est un plaisir de donner la parole aujourd'hui à deux étudiantes. Les carnets palpitent. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Une invitée est avec moi en studio, l'autre est en ligne depuis le Luxembourg. Elles ne sont plus étudiantes, d'ailleurs elles sont désormais jeunes diplômées. L'une est designer, l'autre est architecte. Et elles ont reçu hier un prix remis par la ministre des Collectivités, Dominique Faure. Bonjour Clara Soleil à vous.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets, merci d'être là. Vous êtes étudiante en design, désormais designer donc, et vous êtes lauréate du prix de la marraine. C'est moi qui ai eu la chance de vous remettre ce prix, félicitations. On va parler avec vous de l'usage de l'eau dans une petite commune de Dordogne qui s'appelle Nautron. Pourriez-vous nous décrire ce village d'abord ?
Oui, alors c'est une petite commune, c'est un peu plus grand qu'un village, c'est une petite ville. Donc on est dans la communauté de communes du Périgord Nautronais. Et c'est un milieu rural qui est quand même assez foisonnant. Et là-bas, j'ai travaillé sur la thématique de l'eau, de ses usages, parce que le consommateur et la consommatrice, tout le monde, quoi, on sent un peu dépossédé. Des fois, on est un peu rattaché à ça que par la facture de l'eau. Et en fait, c'est une ressource qui préoccupe quand même le changement climatique et en fait, où on en sera dans 25-50 ans, par exemple. Donc j'ai travaillé sur ça et avec les acteurs et les actrices de la gestion de l'eau sur le territoire.
On va en parler tout de suite. Bonjour Camille Hoppé.
Bonjour.
Vous êtes au Luxembourg donc parce que vous travaillez désormais dans une agence d'architectes là-bas. Vous êtes diplômée de l'école d'architecture de Nancy, Camille. Et votre dossier de fin d'études réalisé à deux avec Marie Disqueraz était consacré au devenir d'une station de ski dans les Vosges. Ventron, les paysages de l'après-ski, c'est le titre de votre dossier. Et vous avez gagné, vous, le grand prix de ce palmarès Palpite. Félicitations à vous aussi.
Merci.
Qu'est-ce qui vous a poussé, Camille, à vous intéresser à cet enjeu-là, l'après-ski dans les Vosges ?
Alors, il faut dire qu'on habite toutes les deux au pied du massif des Vosges. Donc, ce choix du sujet, il s'est vraiment fait très naturellement, au détour d'une conversation qui partait d'un constat simple, c'est-à-dire que les sommets sur lesquels nous allions faire de la luge en hiver en étant toutes petites se retrouvaient de moins en moins, de plus en plus dépourvus de leur manteau blanc au fil des années. Donc à la fin de cet échange, je me souviens très bien qu'on s'est toutes les deux regardées et on était convaincus que c'était autour de cette même question qu'on voulait clôturer nos 5 années d'études.
Alors la technicienne qui est vosgienne, figurez-vous, Lison Berger vient de me gronder dans l'oreillette. Il paraît qu'on dit Ventron et pas Ventron.
Oui, Ventron.
Voilà, les noms des deux communes du jour se ressemblent mais elles incarnent bien sûr des paysages très différents. Ventron dans les Vosges, à l'est de la France, et Nontron en Dordogne, dans le sud-ouest. Et on va commencer par l'eau à Nontron avec vous, Clara Soleil à vous. Vous êtes diplômée de l'école des arts décoratifs à Paris, l'ENSAD. Quelle première question vous êtes-vous posée sur ce sujet d'avenir, hein, la gestion de l'eau dans une petite commune de France ?
Moi, je me suis vraiment demandé quelles étaient toutes les personnes qui intervenaient dans cette gestion. En gros, comment ça se passait, la mobilisation autour de cette ressource, quelles pratiques il y avait sur le territoire, quelles histoires, en fait, parce que tout le monde a une histoire sur l'eau, que ce soit de la pêche quand on était jeune, des baignades aujourd'hui, enfin, tout le monde a cette petite histoire et j'avais envie de recueillir un peu tous ces moments-là.
Alors, pardonnez-moi cette question de néophyte sur votre discipline. On a souvent une vision un peu caricaturale du design qui consisterait, disons-le, à dessiner des chaises et des tables. Le design de la gestion de l'eau, ça existe aussi?
Ouais, il y a même du design des politiques publiques, il y a du design de services, il y a du design d'objets, il y a plein de formes de design. En fait, disons que le design, c'est plutôt, je suis designer et j'arrive quelque part à un sujet et j'ai des outils. Donc moi, c'est le dessin, c'est la peinture, c'est l'observation. Et avec ces outils, je vais collecter plein de morceaux d'un territoire et je vais faire en sorte que, de trouver un peu comment dire, de fabriquer un projet. Et souvent, c'est à partir des besoins qui sont en présence. Je vais vraiment aller observer des pratiques et je vais aller rencontrer des gens. Et au fur et à mesure, il y a des choses qui se tissent un peu.
Alors, vous parliez du dessin à l'instant. Et effectivement, votre dossier regorge de dessins magnifiques. Et ça a été, je crois, un vecteur de communication avec les habitants et les habitantes de cette commune de Dordogne.
Ouais. En fait, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, j'avais mon carnet et mon crayon. Et c'est ma manière aussi de prendre des notes. Mais je dessine, je fais des portraits et j'écris un peu les verbatims de toutes ces rencontres à côté. Et c'était aussi une manière d'échanger. Il y a un moment donné où j'étais justement avec un forestier qui s'appelle Armand Afag et un spéléologue Patrick Rousseau, et ils essayaient de m'expliquer une faille géologique à un endroit, et en fait on avait besoin de mettre ça en schéma pour que je comprenne, en fait, rien que sur une carte, comment ça fonctionnait. Donc c'est vraiment à la fois un outil pour documenter mes rencontres et aussi un outil d'échange pour comprendre comment l'eau elle circule à cet endroit-là.
Vous recueillez des informations auprès de plein de monde et vous constatez que les gens ne se parlent pas entre eux, hein, c'est ça?
C'est un peu ça. Il y a une partie de ce monde qui sent un peu dépossédé. Je sais pas comment ça marche. Je sais même pas à qui m'adresser. Je comprends pas trop tous ces gestionnaires de l'eau. Ensuite, il y a des acteurs qui sont formels, donc les gestionnaires de l'eau, par exemple, l'adduction, l'assainissement. Et il y a des acteurs et actrices qui sont plutôt informels, comme le comité de spéléologie, qui c'est du travail qui est bénévole. Et en fait, le lien entre ces acteurs, il est hyper important, mais il n'existe pas forcément. Et mon idée, c'était vraiment de créer un dialogue entre tout ce monde et trouver un espace commun. Et je le trouvais à travers le dessin, moi, à ce moment-là. Oui.
Alors, le sujet, c'est comment impliquer les citoyens et les citoyennes sur ce sujet d'avenir, qui est la gestion de cette ressource qui va devenir de plus en plus précieuse. Et vous avez cette idée d'un parlement de l'eau. Alors, en quoi ça consiste? Et surtout, est-ce que c'est exportable, d'après vous, dans toutes les communes de France, le parlement de l'eau?
Alors, en fait, le parlement de l'eau, ça part d'une autre initiative qui s'appelle le Parlement de Loire, avec les auditions du Parlement de Loire, où en fait c'est l'idée de donner une personnalité juridique à un élément naturel, enfin non humain. Et je me suis dit, ok, mais ça, c'est, il y a quelque chose, enfin il y a une réflexion qui peut être hyper intéressante à aborder vraiment à travers une installation et vraiment provoquer un peu de discussion. Donc je me suis beaucoup documentée sur ce Parlement de Loire et je me suis dit, ok, donc dans le Périgord dont on est, il y a plein d'eaux différentes. Il y a les eaux de ruissellement, il y a les eaux souterraines, est-ce que ce sont les mêmes? Il y a les eaux en sortie de station d'épuration, il y a les eaux qui sortent de l'évier. Donc tout un système technique. Et si on recueille un peu toutes ces eaux, on les met en bouteille, on les étiquette, en fait, ça nous fait une multitude d'objets et d'échantillons. Comment on en parle et comment on leur donne une voix?
Vous les avez pris en photo d'ailleurs dans votre dossier, les bouteilles dont vous parlez. C'est assez impressionnant de voir finalement les différentes eaux. Elles n'ont pas la même couleur, d'ailleurs. Et puis, vous avez joué aux quilles aussi, un nontron.
Oui.
Pourquoi diable?
En fait, je me suis dit que ça pouvait être un moyen un peu intéressant de... Quand on parle des cours d'eau, il y a un peu un affrontement ou une collaboration, une coopération qui est envisagée entre le patrimoine bâti, qui parfois n'est plus utilisé, comme par exemple des moulins, et une continuité écologique. Et en fait, comment on trouve cet entre-deux, comment on trouve cette coopération? Et je me suis dit, une manière de le faire, c'était de faire jouer deux équipes à un jeu de quilles que tout le monde connaît, qui est le Molki.
Le Molki.
Et ensuite, par exemple, en fonction des événements naturels, par exemple, une inondation et un moulin à ce moment-là qui permet de gérer un peu les débits d'eau, ou alors, au contraire, un autre événement avec un glissement de terrain qui fait que ce moulin se retrouve un peu détruit ou quoi. En fait, comment on fait coopérer tout ce monde ensemble et à travers juste un événement? un événement un peu sympa, quoi. C'est, l'idée, c'était aussi de rendre assez accessible ces problématiques. On se sent un peu submergé par ce réchauffement climatique. Est-ce que c'est qu'une sécheresse? C'est des événements qui sont considérés comme des catastrophes naturelles. Enfin, c'est des choses qui nous dépassent. Et en fait, il faut pouvoir se réapproprier le sujet aussi.
Est-ce que vous diriez que grâce à vous, Clara, les habitants et habitantes de Nontron comprennent mieux aujourd'hui cet enjeu de l'eau?
Ah, je pense que le travail vraiment est à continuer. J'ai lancé des pistes, mais je peux pas dire que leur regard a changé aujourd'hui. J'ai envie de continuer, j'ai envie de pouvoir produire une édition et leur transmettre tout ça, toute mon enquête. Mais déjà, il faut du temps pour s'intéresser à l'eau sur un territoire, enfin sur ce territoire-là, dans le Périgord Nontronnais. Enfin, c'est plein de choses différentes, une multitude. Ça demande du temps et beaucoup de transmission.
Voilà, l'eau et ses usages dans le Périgord Nontronnais. Prix de la marraine de cette promotion palpite. Nous passons de l'eau à la neige à présent. Les paysages de l'après-ski. Quel devenir pour la station de ski de Ventron dans les Vosges? Camille Hoppé, je rappelle que vous êtes penchée sur ce sujet dans le cadre d'un projet de fin d'études à l'école d'architecture de Nancy. Et vous commencez par une équation assez étonnante. Plus égale moins. Il va falloir nous expliquer.
Oui, alors effectivement, je pense que ça irait à l'encontre de tout ce que nos professeurs de mathématiques pourraient nous dire. Mais au final, elle part d'un constat simple, qui est que une augmentation globale de la température de 1 degré engendrerait la perte d'un mois d'enneigement en équivalent. Donc on est parti vraiment de ce constat-là pour fonder notre PFE, et puis ça nous faisait un peu rire d'avoir une équation qui au final était fausse.
Voilà, le PFE c'est le projet de fin d'étude, je le précise. Donc avec cette équation qui n'en est pas une, on imagine le futur de cette station de ski des Vosges. Alors ça donne quoi ?
Alors, donc on a rencontré pas mal de personnes, et surtout une personne en particulier, un doctorant en géographie, qui faisait sa thèse sur les stations de ski fermées. Et il nous a dit « La fermeture des stations, ce n'est pas un coup de massue, mais un coup de fouet pour les territoires ». Et je pense que c'est à partir de cette philosophie qu'on a tenté de proposer un projet plutôt vertueux pour le territoire en s'appuyant sur les ressources dont il disposait.
Alors, il y a beaucoup de choses dans vos propositions pour cette station de ski des Vosges, et notamment le tremplin. Que deviendrait le tremplin de saut à ski ?
Eh ben, on a pensé, donc il est vraiment au pied du village, on a eu une réflexion sur vraiment tout un cheminement jusqu'à la station, et ça serait notre point de départ du projet. Donc on le verrait devenir un musée, on voudrait implanter un musée donc au pied de ce tremplin, pour rappeler l'histoire du ski dans les Vosges, qui a quand même été un des massifs pionniers pour la discipline. Donc c'était vraiment le reflet de toute cette histoire de la station auquel les habitants de Ventron sont très attachés.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces travaux de recherche sur le terrain ?
Eh ben, je pense que c'était l'inquiétude des personnes face à ce manque de neige, mais le massif dispose de toutes les ressources nécessaires pour faire face à ce changement. Il faut vraiment s'imaginer un ancien cirque glaciaire avec des pistes de ski et des remontées de ski à l'arrêt. Et je pense que c'est l'image la plus frappante qu'on a. Quand on a découvert ce lieu, il était dans le brouillard, on voyait à peine le sommet des sapins et puis les quelques pistes de ski. Et tout ça était à l'arrêt. Il y avait encore la vente de tickets. Il y avait quelques tickets qui traînaient par terre. Enfin, voilà, je pense que c'est l'image la plus frappante et qui nous a vraiment donné envie de travailler sur le sujet.
Voilà, les paysages de l'après-ski. Quel devenir pour la station de ski de Ventron dans les Vosges? Un dossier signé Camille Hoppé et Marie Disquiraz, lauréates donc toutes les deux du Grand Prix de Palpite, un palmarès décerné par le ministère des Collectivités Territoriales. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues dans les carnets de campagne. Clara Soleil à vous, Camille Hoppé, et bravo surtout à vous deux pour ces prix. Bonne journée, au revoir.
Merci. Merci, bonne journée.
Merci, au revoir.